Vous écoutez On lit pour vous.
Des villes plus inclusives grâce à l'IA. Oui, si les communautés gardent la main. Un texte de Chin Koseki et Rachid Mouchkani paru le 10 juin 2026 dans La Conversation. L'intelligence artificielle ouvre de nouvelles possibilités pour documenter et planifier l'inclusivité urbaine. Mais peut-elle vraiment y contribuer sans écraser ce que vivent les gens derrière des modèles qui transforment nos rues en simples scores sur une carte? Une ville se comprend souvent à hauteur de trottoir. Un banc bien placé, un passage piéton lisible, un éclairage rassurant, une rampe d'accès, un coin d'ombre ou un arrêt d'autobus protégé peuvent transformer l'expérience quotidienne d'un lieu. À l'inverse, une bordure trop haute, une rue hostile, un parc mal entretenu ou une place où l'on ne se sent pas bienvenu peuvent exclure, parfois sans bruit. Le problème n'est donc pas de demander à l'IA de juger la ville à la place des citoyens, mais de savoir comment l'utiliser pour rendre visibles des formes d'exclusion que les outils classiques détectent mal. Les espaces publics comme les rues, parcs, places, marchés, bibliothèques et promenades comptent parmi les infrastructures collectives les plus importantes des villes. D'ailleurs, ils occupent environ le tiers du territoire urbain à l'échelle mondiale. Leur valeur n'est pas seulement esthétique. Bien conçus et bien entretenus, ils soutiennent la vie sociale, l'activité économique, la santé, la mobilité et la capacité des citoyens à se rencontrer. Mais il ne suffit pas qu'un lieu soit officiellement ouvert à tous pour qu'il soit réellement accessible, accueillant et sûr pour chacun. Les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les nouveaux arrivants, les personnes racisées, les personnes pauvres ou celles qui ne maîtrisent pas les codes implicites d'un quartier peuvent vivre la même rue de façon très différente, notamment selon l'âge, le genre ou le handicap. Ce qui paraît neutre dans un plan d'aménagement peut devenir, dans la vie réelle, une source d'inconfort, de peur, d'évitement ou d'exclusion. C'est là que l'IA peut devenir utile, non comme solution magique, mais comme outil de diagnostic. Ancrée dans les réalités locales et nourrie par l'expérience des communautés, elle peut aider les villes à mieux voir ce que leurs méthodes classiques laissent dans l'ombre, sans remplacer le jugement humain ni la décision démocratique. Pourquoi l'inclusion urbaine ne peut pas rester un idéal abstrait? L'inclusion est devenue un mot central des politiques urbaines. L'objectif 11 des Nations unies demande explicitement de rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables, et insiste sur la planification participative ainsi que sur l'importance de données mieux ventilées pour guider l'action publique. À Montréal, par exemple, la politique équité, diversité, inclusion et antiracisme de la ville vise à reconnaître les discriminations systémiques, à renforcer l'équité territoriale et économique et à favoriser une participation publique plus inclusive. Ces orientations sont nécessaires, mais elles ne suffisent pas. Les inégalités urbaines se vivent dans des gestes ordinaires. Aller au travail, traverser une rue, laisser un enfant jouer dehors, attendre l'autobus, participer à une fête de quartier, manifester, se reposer ou flâner sans être soupçonné d'être hors de sa place. Les espaces publics sont aussi des lieux de culture, de sociabilité et de démocratie. Lorsqu'ils excluent, les effets dépassent l'inconfort. Ils peuvent toucher la santé, réduire la participation sociale, affaiblir la confiance envers les institutions et priver la collectivité de la contribution de nombreux résidents, notamment parce que ces exclusions influencent les conditions de vie et l'accès aux ressources. Les méthodes actuelles ne suffisent pas. Les municipalités disposent déjà d'outils pour évaluer leurs rues, leurs parcs et leurs équipements. Inspections, consultations publiques, audits d'accessibilité, enquêtes, observations de terrain, données de mobilité. Ces méthodes sont utiles. Elles restent toutefois souvent fragmentaires, coûteuses, ponctuelles et difficiles à déployer à grande échelle. Elles comportent aussi un angle mort. Elles mesurent mieux ce qui est visible et standardisable que ce qui est vécu. Une rue peut respecter certaines normes techniques tout en demeurant peu accueillante pour une personne âgée, peu lisible pour un nouvel arrivant, anxiogène pour une femme qui rentre tard ou impraticable pour une personne qui se déplace avec une aide à la mobilité. À l'inverse, certains lieux peuvent être très appréciés par des communautés locales pour des raisons que les indicateurs classiques ne captent pas. Habitude, mémoire, usage informel, ambiance, sentiment d'appartenance. Ces constats posent une question simple. Comment mieux évaluer la capacité réelle des espaces publics à accueillir la diversité des populations urbaines? Ce que l'IA peut apporter et ce qu'elle ne peut pas faire seule. Depuis une quinzaine d'années, les sciences sociales computationnelles combinent sciences sociales, informatique, statistique, données numériques et modélisation pour repérer à grande échelle certains motifs dans les comportements individuels et collectifs, comme l'ont montré les travaux fondateurs du domaine. En ville, elle ne remplace ni les enquêtes ni l'observation de terrain. Elle les complète. Les approches actuelles sont prometteuses, mais risquées. Elles peuvent aider à repérer des régularités urbaines ou à produire des évaluations visuelles comme Street Score, mais les données peuvent être biaisées, les images de rue ne disent pas tout, et un score peut donner une impression de précision tout en effaçant le contexte social, historique et culturel des lieux, comme le rappellent les débats sur les limites des modèles. Une IA pour la ville ne devrait donc jamais être seulement une machine à classer des rues. Elle doit être un outil de discussion, de diagnostic et de responsabilité publique. Coproduire l'IA avec les communautés. Dans notre étude Street Review menée à Montréal et publiée dans Cities, nous avons combiné recherche participative, évaluation d'images de rue, entretien, groupe de discussion et apprentissage automatique dans la continuité d'une première méthode participative publiée dans Habitat International. 28 résidents ont participé à des entretiens et à l'évaluation d'images, tandis qu'environ 45 000 images de rue Mapillary étaient analysées. L'objectif était de relier les perceptions d'inclusivité à des caractéristiques physiques comme les trottoirs, l'entretien, la verdure, les bancs ou la qualité du bâti. Les résultats montrent que les perceptions varient selon les groupes et que des éléments très concrets, notamment la qualité des trottoirs et du bâti, pèsent fortement dans le sentiment d'inclusion, parfois davantage que la seule présence de verdure. Des cartes par profil d'usagers peuvent ainsi faire apparaître des écarts que des moyennes générales masqueraient. L'enjeu n'est pas seulement de produire une carte. Il s'agit de faire entrer l'expérience vécue dans la manière même dont l'outil est conçu. Coproduire l'intelligence artificielle signifie que les communautés ne sont pas consultées à la toute fin, une fois le système déjà construit. Elles participent à la définition du problème, au choix des critères, à l'évaluation des images, à l'interprétation des résultats et à la discussion sur les usages acceptables de l'outil. Dans un cycle de vie participatif de l'IA, cette collaboration se poursuit aussi après le déploiement, car les villes changent, les usages évoluent et les modèles doivent être corrigés lorsqu'ils se trompent ou lorsqu'ils simplifient trop la réalité. Une telle approche peut aider les villes à mieux cibler leurs interventions. Des garde-fous indispensables. Ces outils ne seront utiles qu'à trois conditions. D'abord, les villes doivent être transparentes sur les données utilisées, les limites des modèles et les décisions qui pourront en découler, car transformer des phénomènes sociaux complexes en mesures mathématiques peut faire perdre un contexte essentiel. Ensuite, les résultats doivent être vérifiés auprès de groupes variés, car un modèle entraîné sur un public restreint peut reproduire ces angles morts. Enfin, la responsabilité politique doit rester humaine. L'IA peut signaler des écarts et soutenir un diagnostic, mais elle ne doit pas décider seule de la valeur d'un lieu ni des communautés qui méritent une intervention. Une ville inclusive ne se décrète pas par algorithme, elle se construit par des choix publics. Mieux voir pour mieux agir. Les villes ont besoin de meilleures données et d'une meilleure écoute. Développée avec les communautés, l'IA peut relier les observations locales à l'échelle métropolitaine, rendre visibles des écarts que les administrations soupçonnent sans toujours pouvoir les mesurer et reconnaître l'expertise des résidents. Le défi n'est donc pas de rendre la ville intelligente au sens technologique du terme. Il est de la rendre plus attentive, plus responsable et plus juste. C'était « Des villes plus inclusives grâce à l'IA » Oui, si les communautés gardent la main. Un texte de Chin Koseki et Rachid Mouchkani paru le 10 juin 2026 dans La Conversation.
Rouler, parce que le VIH existe encore, un texte de Stephen Ross, paru le 17 juin 2026 dans le magazine Fugue. Le VIH peut parfois donner l'impression de s'être estompé, mais il est encore bien présent. Et les récentes données rappellent qu'il demeure un enjeu de santé publique majeur. Selon l'Agence de la santé publique du Canada, près de 5 nouvelles infections quotidiennes sont survenues au pays en 2022. À Montréal, la Direction régionale de santé publique révélait en mai dernier une réalité tout aussi alarmante, 675 nouvelles personnes vivant avec le VIH, PVVIH, ont été enregistrées dans la métropole en 2024, dont 40% recevaient un premier diagnostic. La proportion de femmes touchées atteint également son plus haut niveau des 20 dernières années dans la ville. Bref, le VIH existe encore, et les besoins aussi. Dans ce contexte, les initiatives visant à soutenir les PVVIH demeurent plus importantes que jamais. C'est pourquoi la Toronto People with AIDS Foundation invite la communauté à mettre l'épaule à la roue en participant à la 28e édition du Véloton Amis pour la vie, Friends for Life Bike Rally, qui reliera Toronto à Montréal du 2 au 7 août prochain, afin d'amasser des fonds pour plusieurs organismes de lutte au VIH situés le long du parcours. Tour de piste. Rouler, pourquoi? Le VIH existe encore. Les gens pensent parfois que ce n'est plus un enjeu, mais ça l'est toujours. C'est pour ça qu'on roule, pour lutter contre la stigmatisation et soutenir directement les personnes vivant avec le VIH, explique d'entrée de jeu Peter Hart, coordonnateur au marketing et au développement à la Toronto People with AIDS Foundation. Depuis 1999, le Véloton a permis d'amasser près de 28 millions de dollars pour les organismes communautaires œuvrant auprès des PVVIH. Cette année, l'objectif a été fixé à 1,9 million de dollars, le plus ambitieux de l'histoire de l'événement. Pour Peter Hart, cette hausse témoigne de la croissance des besoins humains sur le terrain. Les besoins augmentent, donc on doit continuer d'amasser plus de fonds. Parmi les organismes bénéficiaires de l'édition 2026 du Véloton, on retrouve notamment AIDS Community Care Montreal, Bruce House à Ottawa, Trellis HIV and Community Care à Kingston, ainsi que la People with AIDS Foundation de Toronto. Une formule bien huilée depuis 3 décennies. Le parcours du Véloton est demeuré relativement similaire depuis sa création en 1999. Cette année, le départ sera donné le 2 août à 8 heures au parc Corktown Common de Toronto, tandis que l'arrivée aura lieu durant la fierté au parc La Fontaine à Montréal le 7 août à 16 heures. Le premier jour, les participants sont accompagnés par un comité d'encouragement chargé de les motiver et de donner le ton festif à l'événement. Peter Hart insiste effectivement sur le fait que le Véloton demeure avant tout une activité profondément sociale. Quand les gens arrivent au camp à la fin de chaque journée, il y a énormément d'encouragement, de musique, un comité d'accueil, c'est vraiment très festif. L'arrivée à Kingston le 4 août constitue d'ailleurs l'un des moments les plus forts de toute la semaine. La ville de Kingston et Tourism Kingston font un travail d'accueil incroyable. Ils organisent un immense événement au centre-ville dont l'ambiance ressemble à une fierté. Il y a des familles, des enfants, des dragues et énormément de gens de la communauté et ils amassent aussi des fonds pour Trellis HIV and Community Care. C'est un événement incroyable, souligne Peter Hart. Tout au long du parcours, les cyclistes reçoivent des collations et des goûters gratuits à chaque arrêt pendant les 6 jours. Les journées de 7 heures sont divisées en 3 segments d'environ 2 heures, incluant une pause pour le dîner, une pause en après-midi, ainsi qu'un arrêt final à l'endroit où tous les participants campent. Une expérience transformative pour tous. À ce jour, plus de 370 participants et bénévoles de soutien ont confirmé leur présence, incluant 280 cyclistes qui parcourront environ 100 km par jour pour un total de quelque 600 km. La formule a été pensée afin de rendre l'expérience accessible au plus grand nombre. Peter Hart insiste, il n'existe aucune attente de performance. Les gens roulent à leur rythme. Il n'y a aucune compétition. Les participants âgés de 18 à 80 ans incluent tous les types de conditions physiques et de niveaux d'expérience. Pour répondre aux réalités de chacun, 3 parcours distincts sont proposés. Le trajet complet Toronto-Montréal sur 6 jours, un parcours d'une journée reliant Toronto à Port Hope, ainsi qu'un parcours de 3 jours reliant Kingston à Montréal. Peter Hart souligne également que l'organisme met en place une culture de non-questionnement quant aux besoins et aux capacités des coureurs durant l'événement. Ainsi, si une personne désire arrêter de pédaler pendant une portion du parcours, un transport lui sera offert jusqu'au point de son choix sans justification ni pression. Selon l'organisateur, cette approche fait en sorte que 100% des participants terminent le parcours qu'ils se sont fixés. Notre équipe est très respectueuse. Il n'y a aucune pression et énormément d'encouragement. Tout le monde se rend jusqu'à la fin. Le message est simple. Roulez, buvez l'eau et ayez du plaisir. Côté matériel, la participation nécessite essentiellement un équipement de cyclisme et de camping. Mais encore là, nul besoin d'avoir un vélo haut de gamme ou un équipement professionnel. Pas besoin d'avoir un vélo dispendieux ou un équipement sophistiqué. Nous avons aussi beaucoup de matériel à prêter. Si quelqu'un n'a pas le bon équipement de camping, par exemple, on peut l'aider, souligne Peter Hart. Le Véloton est également ouvert à tous, peu importe le statut sérologique, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Historiquement très masculin, l'événement attire maintenant un nombre grandissant de femmes. Peter Hart lance d'ailleurs une invitation particulière aux personnes qui s'identifient au genre féminin. C'est une expérience unique. Ça permet de développer la confiance, la force et les amitiés. On rencontre énormément de gens de tous horizons et de tous genres. C'est toute une aventure. Participant lui-même au Véloton depuis 2015, Peter Hart affirme que l'expérience a littéralement changé sa vie. « Je voulais rencontrer de nouvelles personnes et faire quelque chose de différent. Je n'avais jamais fait de levée de fonds et je cherchais une façon de redonner », raconte-t-il. « Le Véloton m'a donné un sentiment d'accomplissement tellement fort qu'il est devenu difficile de revenir à ma vie d'avant. » À ses yeux, le Véloton constitue aussi une rare occasion de créer des liens entre des personnes de générations et de parcours différents. On a rarement l'occasion de rencontrer une telle diversité de personnes. Tu manges avec quelqu'un de 20 ans de plus ou de moins que toi, qui a des enfants, qui partage son histoire et explique pourquoi il roule. On a accès à des histoires incroyables. Cette dimension intergénérationnelle amène également Peter Hart a lancé un message aux plus jeunes membres des communautés LGBTQ+. La crise du VIH n'est pas si loin derrière nous. Beaucoup de choses ont changé. Mais les personnes qui étaient là dans les années 1980 ont énormément fait pour nos communautés et elles sont encore avec nous. On peut choisir d'ignorer les autres générations ou on peut décider d'apprendre d'elles. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire au Véloton Amis pour la vie et d'amasser des fonds pour les organismes de lutte au VIH. On peut visiter le www.bikerally.org ou suivre les plateformes web de l'organisme pour toutes les infos et actualités. C'était « Rouler parce que le VIH existe encore », un texte de Stephen Ross, paru le 17 juin 2026 dans le magazine Fugue.
Les campagnes comptent, un texte de Guillaume Bourgaud-Côté, publié dans l'Actualité, édition de juillet-août 2026. En sous-titre, malgré leurs convictions profondes, les citoyens font souvent leur choix en fonction des événements, révèle l'étude du comportement électoral. Lors d'un scrutin à l'issue hautement imprévisible comme celui de l'automne prochain au Québec, une bourde ou une déclaration d'un des chefs de parti peut tout faire basculer, d'autant que le choix des électeurs peut être influencé par divers facteurs jusqu'au dernier jour de la campagne, rappelle Éric Bélanger, professeur à l'Université McGill, co-titulaire de la chaire de recherche sur la démocratie, le vivre ensemble et les valeurs communes au Québec, et co-auteur du livre « Une décennie de turbulences électorales au Québec, 2012-2022 », publié aux presses de l'Université de Montréal, 2026. Quels facteurs influencent le comportement des électeurs? Chaque électeur a des raisons particulières de choisir un parti plutôt qu'un autre au moment du scrutin, et ce sont ces motivations qui nous intéressent. Comme chercheurs, on organise ces facteurs en entonnoirs. Des facteurs à long terme influencent le vote dans le haut de l'entonnoir, et des facteurs à court terme s'ajoutent à mesure qu'on se rapproche du jour de l'élection et du bout de l'entonnoir. Les facteurs de long terme, ça va d'abord être des aspects socio-démographiques et socio-économiques, comme l'âge d'un électeur, son revenu, son degré de scolarité. Ça inclut aussi des clivages idéologiques qui demandent à l'électeur de choisir un camp. Au Québec, il y a le clivage oui-non au sujet de la souveraineté et celui entre la gauche et la droite. Mais on pourrait ajouter le clivage identitaire qui s'exprime beaucoup par la question de l'immigration et celui de l'environnement, même si le contexte actuel indique que ce sera moins présent cette année. Les facteurs de court terme, c'est tout ce qui touche la campagne elle-même. Des enjeux débattus, des considérations stratégiques.
Ces facteurs de dernière minute comptent-ils vraiment?
Absolument. En 2018, notre enquête nous a permis de constater que la volonté d'avoir un gouvernement majoritaire avait amené des gens à voter pour la coalition Avenir Québec, même si ce n'était pas leur premier choix. En 2014, l'arrivée de l'homme d'affaires Pierre-Carl Péladeau comme candidat péquiste, avec son poing levé pour l'indépendance, avait imposé ce sujet dans la campagne. Toutes sortes d'éléments peuvent influencer la décision des électeurs. Et c'est tant mieux. Si tout le monde votait en fonction d'une prédisposition d'avant-campagne, ce serait joué d'avance. Or, il y a toujours cette possibilité qu'un enjeu s'impose, qu'un chef se démarque. C'est la raison pour laquelle on a des campagnes.
Vos travaux expliquent que le scrutin de 2018 a marqué un changement dans le comportement électoral des Québécois. Cette conclusion tient-elle encore?
Oui. On a constaté en 2018 que le Québec avait rejoint les tendances qu'on observait depuis un bon moment dans les autres démocraties, où des enjeux comme l'immigration occupent beaucoup de place dans le débat. Au Québec, ça a été plus long, avant que la question n'ait vraiment une conséquence politique et qu'elle n'entraîne une transformation du système partisan, parce qu'on était d'abord et avant tout pris dans notre débat oui-non. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui un certain retour de balancier, avec la promesse du chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon de tenir un référendum. L'ancienne polarisation revient, mais elle doit maintenant coexister avec d'autres débats. Fin de ce texte de Guillaume Bourgault-Côté, titré « Les campagnes comptent », publié dans l'actualité, édition de juillet-août 2026.